un petit juif nord-africain qui, apprenant son histoire de France, apprenait que ses ancêtres étaient des Gaulois, parce qu'il est bien évident que l'ancêtre d'un Français ne peut être qu'un Gaulois. Ou bien je me souviens d'un souvenir du service militaire où j'ai servi dans un bataillon de Sénégalais à une certaine époque, et où le sergent, sénégalais très sympathique d'ailleurs, faisait tous les efforts qu'il pouvait pour ressembler à un Parisien classique, sorbonnard, abonné au gaz et à l'électricité et achetant ses chemises dans au quartier Saint-Michel. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que je veux dire. Et bien que finalement les temps ont évolué, il n'en reste pas moins qu'il semble qu'il y ait une fatalité. Une fatalité par le fait que le véhicule de réalisation historique, sociologique du rêve de l'universel se heurte à la disparité de cette diaspora des nations. C'est-à-dire que le rêve de l'universel semble impraticable, irréalisable chez les goïms, dira le Talmud. Et c'est pourquoi on voit qu'une histoire se développe où, à différents niveaux, apparaissent ces idéaux de l'universel, mais immédiatement dans la réalité historique concrète elle-même, cela bascule dans des perspectives dites en vocabulaire contemporain impérialistes et qui impliquent, comme nous allons le voir, au niveau de l'identité Israël, ce péril et ce risque du cosmopolitisme. Je crois que là, il y a une règle qui n'a apparemment aucune exception. Mais ça ne signifie pas qu'à l'échelle individuelle, les personnes individuelles de la société où ce rêve est apparu ne continuent à être dans le fort intérieur de leur personnalité individuelle, je le répète, en sincérité totale et absolue avec leur rêve. C'est-à-dire, bien que participant à ce véhicule national qui est voué à l'échec fatalement, à l'échelle individuelle, il se relie à une authenticité de l'idéal de l'universel. Et dans beaucoup de sociétés impérialistes, à l'échelle individuelle, continue à battre cette motivation de la sincérité de la recherche de l'universel. Pour prendre par exemple l'exemple un peu plus contemporain de l'Empire soviétique, qui lui aussi, à l'origine, est motivé par une recherche de reconstruction de l'unité universelle humaine. Et il n'y a pas de doute que la foi marxiste consiste à croire que c'est la méthode marxiste qui seule peut reconstruire l'universel humain. Et bien, inévitablement, la société de cet universel, de ce rêve universel, est devenue un empire, mais cela ne signifie pas qu'à l'échelle des membres de cet empire, il n'y a pas de façon sincère des idéologues de l'universel pur. Vous voyez donc à quelle fatalité semble, et c'est la vision talmudique de cette histoire, à quelle fatalité semble être condamnée les nations dans leur recherche de la reconstruction de l'universel, tout simplement parce qu'elles sont les nations et qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Et alors, assez rapidement, va apparaître une autre ligne, une autre stratégie de l'espérance de réalisation de cet universel et qui est, dès l'origine, la mort de de l'idéal messianique qui s'oppose à cette description, les empires. Et cela débute avec l'identité hébraïque et l'identité d'Abraham. Je vais très rapidement énumérer ces quatre grands empires selon nos sources. Il y a quelques nuances si on est sur du Midrash ou du Talmud, mais finalement la structure du thème dont il s'agit est finalement exactement la même, tant dans le Midrash que dans le Talmud ou dans le Zohar. Nous savons que l'histoire de notre peuple, à partir du moment où Israël existera en opposition à l'expression « les nations », l'Israël et les nations, juste après le temps des patriarches, lorsqu'il se constitue en nation pour lui-même à la sortie d'Égypte, a traversé quatre grands empires. C'est premièrement l'empire de Babel, d'où l'identité hébraïque émerge et sort, dans tous les sens du terme, sortie avec Abraham, mais achève cette sortie de la clandestinité dans l'empire de la civilisation de Babel, Ur-Kasdim, la Mésopotamie de l'Antiquité, avec la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la direction de Moïse. C'est un processus qui dure 6 générations, qui commence à Abraham sortant de l'empire de Babel et se réalise avec Moïse et la sortie de la descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, constitué en peuple à la sortie d'Égypte. C'est la première période. Ensuite, il y a eu l'empire perse et la sortie d'Israël en gestation dans cet universel devenu l'empire perse est au niveau de ce que nous appelons l'hébreu Shiva Tzion, Ezra et Némi, le temps de Mardoché. Esther, c'est raconté dans le livre d'Esther. Et puis ensuite, l'affrontement avec la tentative de l'universel de l'empire grec, l'exil était intérieur, sur la Judée elle-même, et cet affrontement se dénoue avec le temps des Maccabées. Et nous sommes donc dans la quatrième période du troisième exil, et qui est la suite de l'aventure grecque avec Rome, et nous arrivons dans les temps contemporains. Eh bien, ça signifie que, dès l'origine, le Talmud, le Midrash, a eu une vision, une sorte de programmation de la tentative, 4 fois répétée mais 4 fois échouée, de la reprise en charge de ce rêve de reconstruction de l'universel à la manière babylonienne, à la manière perse, à la manière gréco-romaine, et chaque fois l'histoire d'Israël est indexée à l'histoire de ses empires. Nous aurons dans les conférences suivantes de la semaine différents coups de projecteur, différents points de vue, des problèmes que cela pose à la conscience d'Israël qui commence à se constituer dans la visée messianique de la solution de ce problème, semble-t-il encore une fois impossible à résoudre au niveau des nations. L'illustration la plus aveuglante, je ne sais pas si on peut dire cela puisque il faudrait trouver plutôt des termes négatifs, étant la tentative de l'ONU contemporaine, où il n'y a pas de doute que le rêve de l'ONU, c'est l'universel humain, et que finalement, dans la réalisation concrète, cela bascule dans l'échec du cosmopolitisme impérialiste. Voyez à quel point ces problèmes éternels de l'analyse de l'exégèse biblique nous renvoient inévitablement à l'actualité contemporaine. Eh bien, il me reste 2 analyses très brèves à essayer de mettre en forme avant d'arriver à ma conclusion. La première, et elle est directement branchée sur nos préoccupations contemporaines, je voudrais la faire la plus brève possible, mais la plus claire possible en même temps. Si nécessaire tout à l'heure de revenir sur tel ou tel point d'analyse, nous le ferons dans le débat. C'est que lorsque la Torah nous raconte l'histoire de cette identité d'Israël qui commence à se constituer dans le rêve messianique de l'universel, non plus dans ce processus que je viens de décrire, un idéal de l'universalité, mais se basculant dans l'échec des empires, les malchouyot. Et ce ne serait pas par association d'idées qu'il faudrait greffer à cela ma remarque du début concernant la définition que j'ai citée au nom du grand rabbin Jaïs, dans la différence entre eux, une tradition religieuse qui se veut universelle, ainsi que je l'ai définie, et une tradition religieuse qui se veut universaliste. La différence est de l'ordre de la messianité. D'un côté, une messianité impérialiste, de l'autre côté, la messianité hébraïque biblique. Je suis désolé d'être obligé d'être aussi schématique, mais les problèmes sont trop importants pour qu'on ne les évoque pas. Vous vous souvenez donc de ce dont il s'agissait au début de l'exposé. Eh bien, c'est que les personnages qui rythment, qui scandent cette émergence difficile à engendrer de l'identité d'Israël dès l'origine, de constituer une nation qui pourrait reprendre en charge ce rêve de constitution de l'universel sans tomber dans cette fatalité d'égoïme. Et c'est pourquoi, lorsque les événements de confrontation apparaissent, se redistribuent. Comme dans le temps contemporain, mais ce n'est pas du tout la première fois, espérons que ce soit la dernière, ce serait un rêve, Israël d'un côté, les nations de l'autre, avec ses caractères d'invraisemblance, à tel point invraisemblable que cela manque d'humour, de massivité impérialiste face au phénomène Israël. Et le personnage central de l'effort d'émergence de l'identité hébraïque, qui aboutira à la charte de cette carte d'identité qui est la Torah, est accompagné d'autres personnages. Et je m'explique immédiatement. Nous sommes habitués à cette succession. À la première génération, l'émergence de l'identité de l'hébreu, c'est Abraham. À la deuxième, c'est Isaac. À la troisième, c'est Jacob. Lorsque l'ordre des valeurs est suffisamment, je vais dire incarné, bien que ce soit un terme chrétien, incarné, c'est-à-dire se faisant réellement une société. Et, eh bien, Jacob est nommé Israël et l'histoire d'Israël commence. Et dès ce commencement, l'histoire d'Israël est aux prises avec l'universel humain occupé à sa propre stratégie de reconstruction de l'universel, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans la catégorie de l'échec de l'impérialisme, ainsi défini. Et il n'y a pas d'exception. Effectivement, de même qu'il n'y a aucune exception au premier schéma, le rêve de l'universel, qu'il soit au niveau religieux, le christianisme, l'islam, par exemple, qu'il soit au niveau politique, le socialisme, l'humanisme, par exemple, qu'il soit au niveau des empires, purement et simplement, cet échec n'a pas d'exception. Compte tenu de la réserve que j'ai faite et qui est très importante, de la sincérité des individus déchirés par l'échec de leur propre société, je crois que, au temps de l'Empire français, les philosophes de la Révolution française ont été déchirés. Au temps de l'Empire soviétique, les philosophes de la Révolution russe continuent à être déchirés, etc. Eh bien, le personnage central hébreu est accompagné par d'autres personnages. Et je voudrais, c'est la deuxième analyse, le premier schéma des deux analyses qui vont suivre, être assez bref mais suffisamment clair. Si la Torah a tenu à nous raconter l'histoire d'Abraham aux prises avec les rivaux d'Abraham au temps d'Abraham, l'histoire d'Isaac aux prises avec les rivaux d'Isaac au temps d'Isaac et Jacob aux prises avec les rivaux de Jacob au temps de Jacob, ce n'est pas simplement pour nous raconter des anecdotes, mais suivant le principe central de l'exégèse midrashique, Kolma Sheira Lahavot Siman Labanim, et que nous devons comprendre de nouveau profondément, tout ce qui est arrivé au père est un signe de ce qui arrive au fils. C'est que l'histoire de notre identité, je ne dirais pas qu'elle est programmée, conditionnée par l'identité de l'histoire des patriarches, mais elle est éclairée par leur propre problématique d'identité. L'hébreu en situation, c'est Abraham, Isaac et Jacob, à l'échelle de l'individu fondateur, engendreur de notre manière d'être. L'hébreu en situation à l'échelle d'une société dans l'universel humain, c'est l'histoire juive, c'est l'histoire d'Israël. Les structures sont les mêmes, les problématiques sont les mêmes. Il n'y a pas conditionnement, il n'y a pas programmation, il n'y a pas fatalité, mais il y a identification. Si nous sommes les Hébreux, alors nous sommes en problématique d'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en ce sens, il est très important de savoir quelle était cette problématique. Alors je le rappelle très brièvement. Un certain nombre de personnages accompagne le patriarche dans sa geste d'existence. Et je les mettre en série en deux colonnes. D'un côté, il y a une sorte d'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. Au temps d'Abraham, d'un personnage très important du récit qui s'appelle Lot, qui procède de la même famille, les Hébreux dans leur exil d'Ur-Kasdim devenus araméens. De cette même famille d'Hébreux devenus araméens, la famille de Terach, le père d'Abraham, dans cette même famille, à côté d'Abraham, il y a un personnage de la même identité, Lot, qui au point de départ va cheminer parallèlement à l'histoire d'Abraham, mais va s'en séparer et s'instaurer en approximation d'identité rivale. Et je vais le prendre par série. À la deuxième génération, à côté d'Isaac, il y a un personnage qui ressemble à Isaac et qui instaure lui aussi une rivalité qui a pour origine une approximation d'identité, et il s'agit d'Ishmaël. À la troisième génération, c'est Ésaü à côté de Jacob. Et on ne peut pas ne pas être frappé, et nous sommes encore dans la première série des personnages accompagnateurs, si j'ose dire. On ne peut pas ne pas être frappé à quel point Eh bien, nous vivons cette histoire. De quoi faut-il le plus s'étonner? Du fait que l'histoire s'entête à donner raison au texte, ou du fait que le texte explique si clairement l'histoire? Je crois qu'il faut s'étonner des deux choses à la fois. Et effectivement, cette carte d'identité de la famille d'Abraham se déploie dans l'histoire que nous vivons. À partir de Lot, s'instaurent deux rivalités très précises que la Bible a racontées, Ammon et Moab, les Moabites, les Ammonites, on dit. Et cette histoire n'est pas finie. Il faut la diagnostiquer. Où apparaît-elle dans notre contemporanéité? Je me borne à indiquer des têtes de chapitre. Et puis, Ishmaël, c'est bien évidemment l'islam, et sujet qu'il faut étudier en détail, mais ce n'est pas pour rien que depuis 2000 ans et plus, la tradition juive le définit ainsi, Ésaü est le principe de la chrétienté. Et voici donc que dans cette histoire de la famille d'Abraham, les personnages se retrouvent, suivant le principe du Midrash que j'ai cité, tout ce qui arrive au père, c'est le signe de ce qui arrive aux enfants, se retrouvent dans la réalité pure et simple. Mais il y a une autre série de personnages accompagnateurs. C'est une identité qui apparaît à chaque génération et qui a pour projet, non pas cette rivalité de remplacement de l'être hébreu en cours d'engendrement, mais la destruction pure et simple. Au niveau d'Abraham, c'est un personnage qui se nomme Nimrod et qui est défini par le récit biblique comme étant le principe des empires. Réchit, Mamlachto, Babel. Et il y a des Nimrod à chaque âge, comme il y a Lot à chaque âge, etc. À la deuxième génération, au niveau d'Isaac, c'est un personnage qui se nomme Abimelech, qui est défini par le récit comme étant le roi de la Philistée, c'est-à-dire du territoire de Gaza, géographiquement. Mais je veux dire qu'il était le roi des occupants du pays des Hébreux en ce temps-là. Et dont l'objectif est de couper le lien entre Isaac et sa terre. Si nous avions le temps, et ce que nous allons faire demain matin, à partir de demain matin dans les cours de texte, nous verrons en détail les péripéties du récit. Et à la troisième génération, il s'agit de Laban, l'oncle, le beau-père de Jacob, qui, à partir du moment où il diagnostique le fait que l'identité hébraïque a fini d'émerger et réussi d'émerger comme hébraïque du dedans de l'écorce araméenne de l'identité d'Abraham de Kasdim, Laban, qui est un personnage de cette famille, comme Lot était un personnage de la même famille, c'est une histoire de famille que nous raconte ce récit. Je ne sais pas s'il faut l'appeler la sainte famille dans le sens marxiste, mais c'est certainement la famille de la sainteté. Laban, c'était aussi un Abraham possible, un Jacob possible, mais lui reste araméen, sans tête dans son identité araméenne, et c'est pourquoi le texte l'appelle Laban à Arami, et elle s'écrit Arami et l'Aramaï, dit le Midrash, et ceux qui lisent l'Agada de Pessah savent à quel point le récit de la sortie d'Égypte va rappeler cela. Laban, Bikesh, l'Arakor et Takol, et Laban a pour objectif d'arracher entièrement cette identité de Jacob devenu Israël. Voilà donc six personnages qui accompagnent le personnage central de l'émergence de l'identité de la société d'Israël par rapport au projet messianique concernant le problème de l'universel humain. Il faudrait beaucoup plus de temps pour, dans une deuxième partie que nous n'aurons pas le temps de faire, de décrire la manière dont la Bible décrit l'aventure messianique de la société d'Israël depuis le temps de la sortie d'Égypte jusqu'à nous, en fin de compte. Et pourquoi et comment elle est aux prises avec l'histoire des empires, dans une récapitulation qui, dans sa simplicité même, est écrasante. Et bien voilà qu'il n'y a pas seulement ces six personnages. À certaines époques caractéristiques, apparaît un septième personnage qui, lui, récapitule les prétentions des six premiers. Ce personnage est nommé Amalek. Et il apparaît, dans le récit biblique, à chaque période de fin d'exil, à chaque sortie de l'histoire de l'échec d'un empire, à la sortie d'Égypte, c'était l'échec de l'empire des pharaons, à la sortie de Perse, c'était l'échec de l'empire de Babel de la deuxième période, Et puis l'Empire grec et l'Empire romain. Et selon le schéma que le Maharal nous rappelle, apparaît un personnage qui est nommé Amalek. Et dont le profil d'identité, dont la caractéristique d'identité est encore une fois écrasante de simplicité. Il ne s'agit pas seulement d'une approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. Il ne s'agit pas seulement de l'adversaire radical qui veut détruire. Il s'agit des deux à la fois. Il veut à la fois détruire et remplacer. Et ce qui est frappant, c'est que ce personnage apparaît, ce profil d'identité, disons, apparaît à chaque période de fin d'exil. Et je les récapitule. À la sortie d'Égypte, vous le voyez au début de l'Exode, dans la paracha de Vaishlar, apparaît Amalek. À la fin du deuxième exil, et ceci est raconté très en détail dans les livres d'Esther, apparaît de nouveau les Amalécites, avec à leur tête Aman, et qui ont pour objectif de détruire et de remplacer la communauté juive de la première dispersion, se préparant au retour du deuxième royaume de Juda, au temps de Mardochée, Ezra et Néhémie. Et de notre temps, il est inutile de diagnostiquer plus. Nous sommes de nouveau à un temps de fin d'exil, et de nouveau dans notre contemporanéité apparaît ce profil d'identité qui se nomme Amalek et qui a pour objectif et de détruire et de remplacer. Il me semble qu'il est presque inutile d'avancer plus loin dans l'identification. Et que, c'était mon intention d'ailleurs, bien que les définitions restent abstraites, elles sont suffisamment aveuglantes de clarté concrète pour qu'il ne soit pas nécessaire d'aborder le stade de la nomination. Cela pourrait être fait, mais je crois qu'on pourra en faire l'économie. Je crois que ce qui est important, c'est de diagnostiquer cela. Il y a un fonctionnement de notre histoire, et je le répète, il n'y a jamais, j'allais dire répétition pure et simple en histoire, il n'y a jamais programmation de fatalité, il y a problématique d'identité. Si nous sommes les Hébreux, l'environnement est l'environnement des Hébreux. Et alors nous sommes les Hébreux donc. Mais j'aborde immédiatement la conclusion de cette analyse. À l'échelle individuelle, les Juifs sont les membres de cette société Israël dont parle la Bible et dont l'histoire est faite de cette fidélité au rêve messianique de l'universel et donc sont en butte à l'interpellation dans leur relation à l'universel humain, à l'interpellation des empires, dans le sens traditionnel du terme que j'ai essayé d'éclairer. Et lorsqu'apparaissent les temps de rassemblement d'Israël en tant que nation, le danger est bien évidemment le danger de la confusion entre l'universalisme et le cosmopolitisme, les mots ayant leur sens simple.
Bien, c'est donc la conférence du premier soir, du début de ce séminaire. Mais si on a bien suivi dans tes développements l'universel humain, le cosmopolitisme que tu as sans doute laissé à David et qui nous en dira sûrement un certain nombre de notions, un certain nombre d'éclaircissements, peut-être plus que cette connotation extrêmement pessimiste, voire négative, que on a cru comprendre que tu indiquais à cette catégorie qui est le cosmopolitisme. David, tu veux?
Écoutez, une réaction à chaud parce que je vais réagir comme vous. J'entends la conférence pour la première fois. Je connais très bien les thèmes de Manitou. Et alors, à ce propos, une petite histoire simplement. Vous connaissez un des grands maîtres du Talmud, des grands maîtres de la halakha, de la pensée, qui s'appelait Rabbi Yochanan, avait un disciple qui était son beau-frère, Resh Lakish. Et à la suite d'une histoire bien triste, Resh Lakish est mort. Et lorsque Resh Lakish avait disparu, Rabbi Yochanan ne pouvait pas se consoler de la mort de Resh Lakish. Et il était tellement triste qu'il était presque devenu dépressif. Et on a cherché par tous les moyens à essayer d'aider Rabbi Yochanan pour lui trouver un disciple qui était capable d'étudier avec lui. Après des recherches, jour après jour, on a trouvé vraiment un Eloui, quelqu'un de tout un génie. un jeune génie extraordinaire. Et on a dit à Rabbi Yochanan, maintenant, voilà, tu as quelqu'un qui pourrait te remplacer Rish Lakish. Et effectivement, le premier jour, il s'est mis à étudier avec ce jeune génie. Et au bout de 3 jours, Rabbi Yochanan n'en voulait plus. Et il s'est replongé après dans sa tristesse. On a demandé à Rabbi Yochanan, mais on ne comprend pas. Il a l'air d'être absolument hors du commun. Pourquoi ne veux-tu pas de ce disciple? Et Rabbi Yochanan de répondre, écoutez, où est Rish Lakish qui, chaque fois que je disais un mot, il m'apportait 300 contradictions, alors que ce jeune homme m'apporte 300 preuves. Je veux quelqu'un qui m'apporte des contradictions et non des preuves. Alors, pour pouvoir discuter, il faudrait que je cherche des contradictions à Manitou. Où est Rish Lakish? Mais en réalité, j'ai cherché, je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver de contradiction parce que vraiment, j'étais comme vous, pris par la mélodie, mais pas simplement par la mélodie de la musique, mais la mélodie de la pensée et de la réflexion qui nous plonge profondément dans la réalité de la Bible. Mais comme disait le Gaon de Vilna, un des grands maîtres du judaïsme du siècle passé, il disait à ses élèves, il faut lire tous les jours le journal tous les jours. Et on savait que dans la yeshivot, ils ne lisent pas beaucoup les journaux. Hein. On ne lit pas les journaux, Manitou, même dans les journaux. Dans les écoles rabbiniques aujourd'hui, très peu de journaux. Alors on était étonnés que le Gaon de Vilna puisse dire, il faut lire le journal quotidien. Il leur a dit, le journal quotidien, c'est la paracha de la semaine. Il suffit de lire la paracha de la semaine pour y trouver l'explication de tous les événements. Alors Manitou nous a fait bien lire le journal quotidien, la paracha de la semaine ou des semaines, et je crois qu'il n'a fait simplement qu'effleurer les mots, et à travers ce qu'il a dit, on a pu découvrir combien d'allusions à tout ce qui se passe autour de nous. Alors, s'il peut me permettre, je peux apporter une petite idée, tout simplement, et sur deux sujets essentiels. Premier sujet, c'est la génération de la dispersion, Dor HaPalaga. Oui, Dor HaPalaga avec Babel. Et j'aurais, comme c'est beau d'étudier les textes, j'aurais voulu que ces textes, on l'analyse tous ensemble, mais mot à mot, je suis sûr que Manitou le fait tous les jours. Et je voudrais ici apporter, en complément à ce que disait Manitou tout à l'heure, une explication du Shem Ishmoël. Le Shem Ishmoël dit qu'en réalité, en réalité, la vocation à l'universel de l'ensemble de l'humanité reconnaissait les différentes civilisations. Pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait deux personnes qui parlent, deux personnes différentes. Sinon, la Torah n'aurait pas dit parole. Une parole n'existe que dans la mesure où il y a dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux, c'est-à-dire deux personnalités différentes. Donc, une même langue, ça veut dire une même compréhension, c'est-à-dire je comprends ton existence différente par rapport à la mienne, et l'existence d'un langage capable de faire coexister deux personnalités différentes. Si tel était le cas, où est le problème alors? Vahikola aret safa echat, udvarim achadim, vocation à l'universel, reconnaissance de la personnalité d'autrui, et pourtant, un échec. L'origine de l'échec, dit le Shem Shmuel, provient du fait suivant. Parce que le texte dit, venaaselanu shem, penafutz al pene kola aret. Nous allons nous faire un nom. Venaaselanu shem. Pen nafutz al pene kol haaretz, peut-être de peur que nous ne dispersions dans l'espace de la terre. La recherche de l'universel était en même temps la quête du nom de chaque composante de cette unité. Si la finalité de la civilisation et la civilisation elle-même, il y a échec de la civilisation. Si la finalité de la civilisation n'est pas la promotion de l'homme, mais la promotion de la civilisation, si l'homme est au service de la civilisation, alors le projet humain ne peut être que la destruction de l'homme qui est au service de cette civilisation. Voilà ce que dit en quelques mots le Shem Ishmoël. Et à ce niveau-là, les différentes civilisations ne peuvent que, même si c'est un projet d'unité, ne peuvent que courir à leur propre ruine. les ruines des civilisations proviennent du fait des différences de projets dans lesquels l'homme n'est pas la finalité essentielle. Il rapporte ce midrash qui est très très beau, un très beau midrash. Il dit, lorsqu'on a construit ces tours, on n'avait pas les moyens techniques dont on pouvait disposer aujourd'hui. Et alors pour pousser un rocher, il fallait se mettre à 10 000, à 15 000, et on pouvait pousser le rocher 5 mm par jour. Si au bout de 4, 5 jours, 6 jours, eh bien, ce rocher n'arrivait pas à résister à l'énergie humaine et qu'il dégringolait et qu'il tombait par terre, on décrétait le deuil national, parce que le travail de 8 jours était sacrifié. Si, au moment où on était en train de faire l'effort pour construire la tour, il y avait quelques milliers de personnes qui mouraient, dit le Midrash, on ne se retournait même pas. On ne pouvait pas faire d'omelette. Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Eh bien, les œufs, c'était les hommes. On pouvait même programmer le nombre de personnes qui pouvaient mourir et qui devaient mourir avant d'accéder à la construction de ces tours. C'était quantité négligeable. Le but, la finalité, le projet était la construction de ces tours. Les hommes qui devaient le construire étaient quantité négligeable. Si une civilisation arrive dans l'illusion de la perpétuation du nom, parce que c'est la Nouchem, voudrait s'investir dans une construction de civilisation en oubliant la finalité de l'homme, alors c'est l'échec des civilisations, même si elles sont reconnues les unes par rapport aux autres. Et à ces civilisations qui ne cherchent à perpétuer que leur œuvre plutôt que la promotion de l'homme, est opposée, dit Shemi Shmuel, l'éclosion de cette personnalité exceptionnelle qui s'appelle Abraham, qui lui aussi, lui fondamentalement, cherche l'unité de l'humanité entière à travers les différentes civilisations, tout en leur donnant leur finalité, mais, dit le Shemi Shmuel, il rapporte le même verset, « Vaikra Sham Avram Beshem Hashem ». Il appela là-bas le nom de Hashem, le nom du nom, et non pas le nom de l'homme. « Si je cherche à me perpétuer à travers l'œuvre, l'œuvre devient l'illusion d'une finalité et je disparais dans l'œuvre. Et les œuvres ne peuvent que s'autodétruire les unes les autres. Si je cherche moi personnellement à disparaître dans l'élaboration d'un projet de Dieu, eh bien Dieu fera en sorte qu'il puisse perpétuer mon nom. » Et d'ailleurs le Shemesh Moël va plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est préoccupé du nom d'Abraham, lui, et il a transformé son nom, il l'a passé de Avram à Abraham. Puisque lui s'est préoccupé du nom de Dieu, Dieu lui aussi s'est préoccupé du nom d'Abraham. Si bien que la finalité du peuple juif est de faire un appel à l'unité de l'humanité tout entière pour que chaque civilisation trouve à travers sa spécificité le moyen de faire qu'à travers l'unité de l'humanité tout entière, l'explosion du nom de Dieu dans le monde. Voilà, et je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais simplement pour rappeler cet enseignement de Shem Shmuel qui est très cher à Manitou, je le sais bien, et qui a insisté essentiellement sur ces deux mots, le Shem, c'est là nos Shem à nous, ou bien au contraire, le Shem Hashem. Mais comme c'est, j'irai très, très vite, mais parce que le texte est d'une richesse tout à fait extraordinaire, comme par hasard, c'est un texte que j'ai étudié avec mes élèves aussi cette année. Et effectivement, il est au cœur de notre problème et du problème d'Israël, effectivement, qui est la tension entre la spécificité et l'idéal de l'universel.
Si tu permets, avant la suite, j'étais frappé par le fait que le titre du livre, c'est Shem Mishmuel.
La deuxième idée, à travers ce qu'a dit Manitou, est la suivante. Il a cité beaucoup de noms, et je trouve ça dans le cadre de l'évolution de l'universel, c'est extrêmement important. Comme par hasard, je ne pense pas que le hasard existe, je sors d'un cours tout à l'heure, et nous avons étudié avec nos élèves tout à l'heure un personnage qui est tout à fait exceptionnel dans la réussite, effectivement, de la spécificité et l'universel. Ce personnage, c'est Yosef, c'est Joseph en Égypte. Joseph en Égypte est la personnalité qui est la synthèse de Abraham, Isaac et Jacob, puisqu'il vient après Jacob, et le texte de la Torah dit « Ele toldot Yaakov » Yosef. Et voici les engendrements de Jacob, Yosef. Yosef étant la synthèse des trois personnages dont nous avons parlé tout à l'heure à travers tous les conflits. D'ailleurs, le texte dit que dès que Joseph est né, Jacob a dit, maintenant je peux partir, parce que Joseph est le Satan de Esaü. C'est-à-dire, Joseph, c'est l'antithèse d'Esaü. Joseph est celui qui, tout au cours de sa vie exemplaire, il aura réussi à faire en sorte que, dans une même personnalité, il va réussir ce drame, ce conflit dramatique entre la spécificité de l'identité juive et le caractère universel, universaliste de son rayonnement. Joseph est le vice-roi d'Égypte, il est le nourricier de l'humanité tout entière, et à tel point que les frères l'ont soupçonné d'être un véritable Égyptien, et il s'est fait reconnaître par ses frères en leur disant « Ani Yosef Achichem, je suis encore aujourd'hui Joseph, votre frère ». Il a réussi, il a brillamment réussi cette synthèse, et en cela, il était lui le projet messianique. Si nous sommes les fils de Joseph, eh bien nous sommes aux portes de l'arrivée du Mashiach. Et le texte d'ailleurs par la suite dit bien, malheureusement, « Bayamot Yosef, vechol echav, vechol hadorahu » que le début de l'exil a commencé par la mort de Joseph. Il ne s'agit certainement pas de la mort physique de Joseph, mais la mort de l'idéal représenté par la vie de Joseph dans l'esprit de ses enfants et de ses descendants. Lorsque Joseph est mort, c'est-à-dire lorsque la possibilité de la réalisation de la synthèse entre la spécificité de l'identité juive et le caractère universel de son rayonnement, puisqu'il ne s'agit pas du moi, et c'est seulement dans cette synthèse que la possibilité de réussir peut exister, parce que c'est une tension impossible, ou je suis moi-même, ou je suis l'universel. Le moi-même, eh bien, est un enfermement. L'universel est une ouverture, et on voit que lorsque Joseph a été appelé Joseph, on oublie souvent, c'est à travers deux caractéristiques. Bah, Tomer, comme ça le Shem Shmuel encore le rapporte, je l'étudie beaucoup ces derniers temps, Asaf, Elohim et Herpati. Et après, il a dit Yosef, Hashem, Li Ben Acher. Il y a en Yosef ces deux éléments. Asaf, ça veut dire le fait de réunir à soi-même, le fait de prendre, le fait de s'enfermer à l'intérieur de nous-mêmes. L'identité juive est une identité qui pourrait apparaître comme quelque chose de prodomo, comme quelque chose qui est à l'intérieur de portes dans lesquelles on peut se retrouver. Mais en même temps, Yosef Hashem Liben Acher, que HaKadosh Baruch Hu m'ajoute quelque chose de plus. Ces deux tendances vers la spécificité et vers l'universalité étaient véritablement l'histoire réussie de Yosef. Yamot Yosef, lorsque Joseph est mort dans l'esprit de ses frères, alors les mesures d'exception ont commencé. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Yaakov el Hadash al Misraïl, Asher Loyada et Yosef. Alors, un roi d'Égypte, or l'Égypte, ça veut dire Metzer. Metzer, ça veut dire les frontières. Il n'a pas pu comprendre, le pharaon. Il n'a pas pu comprendre que l'on pouvait être à la fois Yosef, le frère, le fils de Jacob, et en même temps être un vice-roi. C'est quelque chose qu'il n'a pas pu assumer, qu'il n'a pas pu comprendre, puisque ça a été oublié dans l'esprit de ses frères. Et alors, les mesures d'exception ont commencé, et c'est toujours autour de cette tension dramatique entre l'identité spécifique et la responsabilité universelle, qui est un fait fondamental dans l'identité d'Israël. Voilà les deux aspects. Alors, à travers tout cela, effectivement, toutes les tensions que nous vivons aujourd'hui avec les milieux environnants et avec, en particulier, toutes les tendances de division qui peuvent exister à l'intérieur d'Israël même entre ce que l'on peut appeler comme valeur universelle et valeur spécifique. Voyez, c'est-à-dire que les luttes qui existent entre Israël et les nations sont en même temps, ne sont que l'écho des luttes intestines qui existent à l'intérieur d'Israël entre la vocation universelle à l'intérieur d'Israël et la vocation spécifique de spécificité à l'intérieur d'Israël. Et nous en connaissons quelque chose aujourd'hui, malheureusement, je peux le dire, en Israël, où ces deux tendances existent, coexistent et quelquefois conduisent à des luttes que l'on voudrait voir certainement dépassées. Voilà quelques idées qui n'ont rien à voir avec Reish Lakish, hein, par rapport à Rabbi Yochanan, mais qui vont dans le sens d'un prolongement de ce qu'a dit tout à l'heure Manitou.
Bien, écoutez, avant de vous donner la parole, si vous avez des questions à poser, je voudrais reprendre cette idée de complémentarité de ta première remarque, qui me semble extrêmement importante, à la fois pour le problème théorique que nous sommes en train d'envisager, et pour la contemporanéité aussi, J'ai bien présent à l'esprit le fait que le deuxième volet de l'analyse est encore en suspens, le cosmopolitisme. Mais d'abord, une histoire de Rish Lakish que tu m'as remise en mémoire. On raconte dans le Talmud que on a cité en présence de Rish Lakish un enseignement. Et Rish Lakish, spontanément, vous allez retrouver le même profil d'identité, a dit « j'ai 36 objections ». Et il commence, une, deux, trois, quatre, pris de scrupules, il s'arrête et il demande « mais c'était l'enseignement de qui que vous avez cité ?» On lui a répondu « l'enseignement de Rish Lakish ». Et ceci pour dire que Rish Lakish était très lucide et il ne cherchait pas à contredire pour contredire, comme je me suis laissé dire qu'on le lui fait dire dans d'autres exposés, mais qu'il est évident que la problématique de l'étude demande de mettre en évidence toutes les, comment dire, dimensions d'une notion, d'un problème qui est à l'étude, sans que cela signifie que ce soit contradiction dans le sens négatif. C'est ce que je voulais mettre en évidence. Et alors, sur la première de tes remarques, une notion importante m'est apparue en t'écoutant, c'est ceci. J'ai cité le Shem Shmuel sur le verset, le premier verset du chapitre 11 que nous avons étudié, et qui a bien mis cela en évidence, langue unique, mais il faut dialogue. Or, on parle beaucoup dans le temps contemporain de la nécessité du dialogue, et c'est-à-dire le recours à l'autre. Je crois que on n'a pas pris garde à quelque chose qui a disparu dans une définition authentique du dialogue, la réciprocité. Il y a, je pense, dans la réflexion juive contemporaine, une espèce de phénomène d'hypnotisme sur la notion de la restauration de la dignité de l'autre en tant que tel, et qui provient sans doute de la période historique que nous venons de passer, pendant les siècles de l'exil, mais surtout dans les dernières générations contemporaines, où en tant que juifs, nous avons vécu intensément le fait que l'autre ne nous reconnaissait pas. Et semble-t-il qu'il y a une réaction de la pensée juive contemporaine de remettre en évidence de façon très accusée la notion du respect de l'autre en tant que tel. Mais, me semble-t-il, on a oublié la clause de la réciprocité. Ça pourrait être dit de différentes manières, à différents niveaux, mais ça concerne aussi nos problèmes contemporains. Il ne peut y avoir dialogue que s'il est vraiment dialogue, c'est-à-dire que s'il est réciproque. Sinon, on risque de tomber, et certaines philosophies juives contemporaines, je n'oserais pas les nommer, ce serait un tout autre débat, et puis ce ne serait pas très décent sans leurs auteurs, disons, ont fini par ériger l'autre en tant qu'idole, et c'est une idolâtrie lorsqu'il n'y a pas réciprocité. L'autre, dans sa dignité d'autre, c'est une notion authentiquement biblique, mais s'il n'y a pas réciprocité, alors cela va, et cela a été dit, cela va jusque à l'autosuicide, au sacrifice, à la passion, entre guillemets. J'ai entendu des philosophes juifs contemporains parler de la Shoah comme de la passion d'Israël, dans le sens chrétien du terme de passion dans le vocabulaire évangélique, plus que souffrance, souffrance donnée en holocauste pour l'expiation des péchés du monde, que sais-je. Et il me semble qu'il y a là une perspective extrêmement dangereuse. Et je crois que dans beaucoup de milieux de la société juive, et aussi israélienne, comme l'a cité David contemporaine, on est tombé dans ce piège, puisque la dignité de l'autre est une valeur authentiquement biblique, prenons garde à ne pas la laisser atteinte, mais si on oublie la clause de la réciprocité, alors il y a irresponsabilité et autosuicide. Je ne sais pas si cette remarque est suffisamment éclairante. Mais je reviens un peu au deuxième volet pour vous donner la parole. Je crois que, habitué, pris dans cette longue histoire, une histoire d'entêtement d'ailleurs, d'être fidèle au rêve messianique de l'universel vrai, dans cette empoignade que ces 2000 ans d'histoire, mais ces 4000 ans d'histoire nous montrent, entre les tentatives de l'impérialisme, de tous les impérialismes, et d'autre part la messianité d'Israël, la messianité juive, telle qu'elle a été décrite, on ne reviendra pas sur la définition, on a fini par oublier qu'il s'agissait de la spécificité d'une identité nationale. et que cette identité nationale, une fois reconstituée, continuait sur la lancée du rêve de l'universel, mais en se dépouillant de son identité spécifique, fait basculer dans le cosmopolitisme. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer. La vocation d'Israël, dont la spécificité est d'être universaliste, risque de basculer dans l'échec lorsque on oublie que c'est la vocation d'une identité spécifique. Elle était en réserve, elle était...